Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Le gouvernement présente mercredi son troisième budget rectificatif avec un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros et une dette aggravée à 121% du produit intérieur brut. À terme, il faudra réduire cette dette, mais à ce stade, l'exécutif assure qu'il n'augmentera pas les impôts.
Oui, il faut dire que le terrain est miné. Les hausses d'impôts sont impopulaires, c'est une évidence. On se souvient du ras-le-bol fiscal sous François Hollande ou, plus proche de nous, de la crise des gilets jaunes déclenchée par la hausse de la taxe carbone. Et dans la période, cette solution apparaîtrait sans doute comme totalement incongrue, voire comme une provocation, alors que nombre de Français ont du mal à joindre les deux bouts, même si ces derniers ne sont pas nécessairement assujettis à l'impôt sur le revenu. Ainsi, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, disait encore il y a quelques jours refuser des hausses d'impôts comme solution à la crise. Et puis, on peut encore s'en passer, vu les conditions d'endettement du moment. Grâce au soutien de la Banque Centrale Européenne, la France peut s'endetter sur le long terme avec des taux faibles, souligne-t-on à Bercy. On rappellera aussi, ça semble aujourd'hui très loin, que le gouvernement a engagé une baisse de l'impôt sur le revenu. 17 millions de ménages en bénéficient depuis janvier 2020. L'État a injecté pour cela 5 milliards d'euros, tirant les leçons de la crise des gilets jaunes. Donc, augmenter les impôts serait un reniement de la politique menée.
Et si les hausses d'impôts sont impopulaires quand elles sont générales, l'idée de taxer les plus riches rencontre en revanche plus d'adhésion.
Oui, alors pas du côté du gouvernement. Le ministre de l'économie qualifie cette piste de pure démagogie. Mais ces dernières semaines, en effet, de nombreuses personnalités se sont exprimées en faveur d'un retour de l'ISF, l'impôt sur la fortune. De la prix Nobel d'économie, Esther Duflo, au secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, en passant par la maire de Lille, Martine Aubry, et même Raymond Soubi, l'ex-conseiller social de Nicolas Sarkozy. 70% de Français y sont favorables, d'ailleurs, selon un sondage Elab pour les Échos, publié ce matin. Alors d'autres évoquent l'idée d'une contribution exceptionnelle des hauts revenus. Des parlementaires de gauche ont ainsi élaboré une proposition de loi ciblant les personnes possédant 10 millions d'euros de patrimoine et plus, reprenant une idée lancée par l'acteur Vincent Lindon. Même chez les marcheurs, l'idée d'une taxation ponctuelle des plus fortunés fait débat. Récemment, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, un proche d'Emmanuel Macron, n'a pas fermé la porte. Mais donc pour l'instant, c'est un non ferme du côté de Bercy.
Bon, mais est-ce que ça signifie, Anne-Laure, que le gouvernement ne puisera dans aucune poche pour réduire, à terme, le déficit et donc la dette ?
Ben, si, il y a bien des idées pour générer de nouvelles recettes, mais à ce stade, elles sont plutôt à chercher du côté des entreprises. Et pas toutes, puisqu'il s'agit de cibler certaines catégories. Et là, il y a trois pistes. La taxation des géants du numérique, la lutte contre l'optimisation fiscale dans les paradis fiscaux, à travers une imposition minimale au niveau mondial, et la taxation carbone aux frontières de l'Union européenne. Les deux premières sont dépendantes d'un accord au sein de l'OCDE. Le troisième projet est européen. Et là, on parle de taxes qui ne s'appliqueront pas tout de suite, car elles sont encore loin d'être actées, même si la taxe GAFA pourrait revenir, s'il le faut, au niveau national. Augmenter les impôts ne semble donc pour l'instant pas à l'ordre du jour, dans un horizon proche. Quant à les baisser pour relancer la croissance, ça ne semble pas non plus d'actualité. Le gouvernement est ainsi hostile à une baisse de la TVA, à contre-courant de ce qui a été décidé en Allemagne, estimant que ça coûte très cher et que ce n'est pas forcément efficace. En clair, l'exécutif a fait son choix pour relancer l'économie et il l'assume, privilégier la politique de l'offre plutôt que celle de la demande.
Merci Anne-Laure Jumet pour ce billet écho. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de l'historien Patrick Veil et on va évoquer les deux combats, celui dont vous parliez, combat contre le coronavirus avec ses conséquences sociales et économiques, et puis combat contre le racisme avec la question des violences policières et les différentes manifestations qui ont eu lieu des États-Unis jusqu'en France.